Alors, chers amis, c'est une grande joie de parler dans cette magnifique église dédiée à Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est un très très beau morceau d'architecture d'une époque qu'on redécouvre maintenant. Et il y a quelques instants, je voyais le soleil se refléter dans le merveilleux vitrail du fond. Il est légèrement atténué depuis quelques secondes, mais c'était une véritable splendeur. Alors, donc, nous allons, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la sainteté de Thérèse et de la sainteté de son temps. Je voudrais poser la question de façon légèrement différente. Je voudrais parler du rôle de Thérèse dans la sainteté contemporaine. Quel est le rôle qu'a joué Thérèse? Et d'une certaine façon, la question est, continue-t-elle à le jouer? Donc je vais aborder les questions comme je peux. C'est un véritable monde, vous savez, Thérèse. On ne peut dire qu'un certain nombre de choses, mais c'est toujours intéressant de se rapprocher d'elle sous une forme ou sous une autre. Alors, je vais attaquer la question, si l'expression ne vous choque pas, sous plusieurs angles. D'abord, je vais essayer de la situer dans la sainteté numérique de son temps. Ça va vous paraître bizarre, hein, mais vous allez voir. C'est assez surprenant. Ensuite, après, je voudrais vous parler de son rôle doctrinal dans la sainteté de son temps. Et enfin, je donnerai des exemples d'influence de Thérèse pour montrer qu'elle a été une mère de saints. Alors, Thérèse et la sainteté de son temps d'un point de vue numérique. C'est bizarre comme question, n'est-ce pas? Mais enfin, quand on regarde un peu l'histoire contemporaine de l'Église sur la sainteté, si on regarde ça de près, on a des surprises. Alors, je vais vous faire partager une surprise que j'ai eue dans ma vie, et il n'y a pas beaucoup de gens qui la partagent. Vous savez qu'à Rome, vous avez une congrégation, c'est-à-dire un ministère de la curie, qui s'occupe des causes des saints. Ça s'appelle la Congrégation pour les causes des saints. Et autrefois, ça dépendait de ce qu'on appelait la congrégation des rites, c'est-à-dire la liturgie. Ça a été scindé à un moment donné. En 1890, c'est-à-dire 130 ans, c'est pas si vieux en fait, devant la congrégation des rites à l'époque, il y avait en cours 150 de causes de canonisation et de béatification. Ça va, 1890, du vivant de Thérèse. 1890, donc à la fin de la vie de Thérèse, 150 de causes en cours. Bon, on trouvait déjà que c'était beaucoup. En 1921, on était passé à 328. Pour la plupart des gens du XIXe siècle, en fait, c'est toute cette grande sainteté du XIXe siècle, hein, en particulier française, avec toutes ses fondatrices et ses fondateurs de communautés, 328, en 1921. 1941, 20 ans après, 764, ça avait doublé en 20 ans. 1941, 764. 1962, 1200. C'est effrayant, non ? 1000 comme volume de travail, je peux vous dire, c'est vraiment effrayant. 1962, 1200. 1999, 2000. 1999, 2000. 2017, 2 points, 3000. Il y a 3000 causes en cours à Rome, à l'heure actuelle. Il en arrive actuellement 65 par an. Ce qui veut dire que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se trouve devant une énorme expansion de la sainteté au XXe siècle. Un siècle qui a été un siècle difficile. Saint Paul VI disait, c'est un siècle fascinant et difficile. Un siècle de combats, de grands combats, un siècle de morts, avec un nombre de morts dus aux guerres et maintenant à l'avortement gigantesque. Un siècle de peur, de misère, mais aussi un siècle de courage, d'héroïsme. Et un siècle de sainteté, un grand siècle pour la sainteté. Le XXe siècle est le grand siècle des martyrs. Mais ce n'est pas que des martyrs, ces saints, ils s'en foutent beaucoup. Et c'est un grand siècle dans la sainteté. Et ce siècle est inauguré par Thérèse. Pas elle seule, mais clairement, elle est comme l'étoile qui inaugure un siècle difficile et fascinant. Et c'est elle qui va, d'une certaine façon, en éclairer une partie, au moins une partie. Elle ne résume pas la sainteté de l'époque, mais quelque part, elle est au début, elle la démarre, elle l'éclaire. Pour prendre un cas plus résumé maintenant, si nous passons aux causes françaises, en 1975, il y avait à peu près 160 causes françaises du XIXe siècle introduites à Rome. D'accord. 1975, 160 causes françaises, exactement 157, et il y avait seulement 15 causes de Français morts au XXe siècle. Donc vous pouvez avoir l'impression que la sainteté française, en quelque sorte après Thérèse, à l'exception de personnes comme le père Brottier, était comme aplatie. Il se trouve simplement que en France, il y a eu beaucoup de saints au XXe siècle aussi, et à l'heure actuelle, on est à peu près à 70 causes françaises du XXe siècle introduites. Ce qui est pas mal. C'est une grosse progression, et il y en a de nouvelles qu'on introduit. La dernière cause datant de touchant une personne qui est morte en 2005. Donc c'est tout près de nous. Oui, 2005. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sainteté dont nous venons de parler, qui est considérable en nombre, hein, qui touche beaucoup l'Espagne, l'Italie, avec beaucoup les martyrs de la guerre civile, hein, en Espagne, la France aussi, eh bien cette sainteté se continue, y compris dans notre pays et sous nos yeux. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Voilà. Donc l'importance de cette sainteté, l'énorme importance de cette sainteté, et qui est comme inaugurée au départ, vous voyez, par la figure de Thérèse. Alors, une fois qu'on a dit ça, avouez que c'est surprenant quand même. Ce n'est pas des chiffres que vous auriez dit si je vous avais posé des questions. Si je vous avais dit il y avait 152 causes en Rome en 1891 et maintenant combien y en a-t-il, vous n'auriez pas dit 3000. Vous voyez, c'est une multiplication par 20, c'est énorme. Donc on a un phénomène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre monde chahuté et difficile, Dieu s'occupe de notre monde. Ça veut dire qu'il ne nous lâche pas, ça veut dire qu'il envoie des gens et on peut les fréquenter sans savoir qu'ils sont saints. Et puis paf, un jour, on apprend qu'on introduit leur cause, ou qu'on y pense. Alors, à l'intérieur de ça, quelle a été, maintenant je passe tout de suite à ma deuxième partie, qui est la plus importante au fond, quel a été le rôle doctrinal de Thérèse? C'est-à-dire, quel rôle a-t-elle joué dans ce monde-là, ce monde du XXe siècle, dont je viens de donner un aspect tout à fait particulier? Quel a été le rôle qu'a joué Thérèse? Alors, je pense qu'il faut, sans critique, revenir à la période précédente Thérèse. C'est-à-dire que, au fond, quels étaient les défis, au moins au niveau de la sainteté, quels étaient les défis du vivant de Thérèse, et comment a-t-elle répondu à ces défis? Alors, ce que je vais dire est connu, ça n'a aucun caractère novateur, mais c'est bien de se le rappeler. Comment voyait-on la sainteté au XIXe siècle, globalement? Alors, je dis globalement parce que, par exemple, dans le courant de Saint-François de Sales, c'était pas comme ça. Mais le courant salésien, en dépit de l'importance de la visitation à l'époque, il y avait 120 visitations en France, avant les expulsions de 1901, le courant salésien n'était pas majoritaire. C'était un courant de spiritualité au milieu du reste. Mais globalement, comment voyait-on les choses? Alors, on vivait sur cette idée que la vie d'un chrétien normal était celle d'un homme qui devait faire son salut. C'est-à-dire, son salut, c'était éviter l'enfer. Et donc, il fallait avoir le nombre de points suffisant pour éviter l'enfer. À 9-9, vous ratiez. À 10-1, vous passiez. Et donc, ça veut dire que la vie chrétienne devait être commandée par une vie d'abord de type ascétique. Au XVIIe siècle, il y avait un jésuite italien qui avait écrit un bouquin qui a eu un succès fou, il s'appelait Scaramelli. Et Scaramelli a fait un bouquin qui s'appelle « Le directoire ascétique et mystique ». Et donc, ils ont séparé à ce moment-là ce qu'on appelle l'ascétique et la mystique. L'ascétique, c'est les bases, tout ça est bon en soi, hein. L'ascétique, c'est les bases de la vie chrétienne, c'est la vertu chrétienne, c'est l'établissement des bases de la vie, vous voyez, des bases de la vie chrétienne, il faut établir les bases, hein. C'est irremplaçable. Quant à la mystique, c'est la seconde partie de la vie spirituelle à laquelle sont appelés seulement les saints. Et les saints, ce sont des gens qui vont avoir, un, des phénomènes mystiques, et deuxièmement, des épreuves au-delà de la moyenne. Ce qui veut dire qu'un saint, c'est quelqu'un qui va souffrir exceptionnellement, mais qui, dans cette souffrance, va être soutenu par des phénomènes mystiques eux-mêmes exceptionnels. Donc on sépare bien ce qu'on appelle la vie ascétique et la vie mystique. Si bien que dans l'entre-deux-guerres, un sulpicien très connu qui s'appelle Tanqueray va publier un livre qui a été tiré à des milliers d'exemplaires et réédité des dizaines de fois, je crois, qui précisément est un livre de spiritualité ascétique et mystique, de vie ascétique et mystique, qui sépare bien les deux éléments. Donc la vie d'un chrétien normal, c'est fait ton salut le mieux possible. Évite l'enfer, c'est déjà pas mal. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai. Mais est-ce que ça suffit? Et deuxièmement, la deuxième question qui est derrière ça, donc la première question c'est, est-ce que la vie chrétienne c'est simplement éviter l'enfer? Est-ce que le salut c'est que ça? Avec des guillemets, que ça bien sûr. Et le deuxième élément c'est, est-ce que la vie de sainteté c'est uniquement la vie mystique? Les phénomènes mystiques, eux-mêmes d'ailleurs conçus sous la forme de phénomènes mystiques exceptionnels. Est-ce que c'est ça? Alors il y a eu un débat qui a duré un certain nombre d'années, fin 19e siècle, début 20e siècle, autour de ces questions-là. Le débat a affronté des théologiens, et en particulier un jésuite très connu à l'époque, qui s'appelait le père Poulain. Et le père Poulain a fait un gros bouquin qui s'appelle « Des grâces d'oraison », qui est un livre dans lequel il a étudié spécialement, dans les grâces d'oraison, les grâces extraordinaires. Pour lui, les grâces d'oraison, c'est d'abord des grâces de type extraordinaire. Et donc ce bouquin a eu un certain succès, il a été l'objet de comptes rendus très favorables, et il a dressé contre lui un certain nombre de personnes, et en particulier un prêtre connu à l'époque, qui s'appelait le chanoine Sodreau, qui était l'aumônier du bon pasteur d'Angers, de la congrégation du bon pasteur d'Angers. Sodreau avait publié plusieurs bouquins, et le débat était le suivant. Le père Poulain disait, la vie de sainteté, c'est donc une vie mystique et extraordinaire. Et le père Sodreau, le chaman Sodreau, disait, mais pas du tout, ça n'est pas une vie extraordinaire. Tout le monde est appelé à une vie de sainteté, et même à une vie mystique, car la vie mystique peut être inconsciente, elle ne se traduit pas nécessairement par des phénomènes absolument extraordinaires, comme des miracles, des lévitations, des bilocations, des choses comme ça. Voyez. Donc il y a eu un débat très violent d'ailleurs, entre ceux qui ne se sont pas ménagés, entre Poulain et Sodreau. Et donc, la question était dans l'air. Vous voyez, la question était, est-ce que tout le monde est appelé à la sainteté ou pas? Et si on est appelé à la sainteté, les deux réponses se joignent, hein, vous comprenez? Si on est appelé à la sainteté, eh bien, est-ce que ça va être nécessairement des phénomènes extraordinaires accompagnés de souffrances totalement inhabituelles? Vous voyez ça? Si la sainteté, c'est ça, clairement, tout le monde n'y est pas appelé. D'accord? Il faut laisser ça aux carmélites, hein, dont c'est le métier. Mais la bonne mère de famille, ou la personne qui s'occupe de ses enfants, de son ménage et de son mari, ne peut pas nécessairement se payer ce genre de phénomène. Hein. On n'a pas le temps. Mais, donc du coup, elle n'est plus appelée à la sainteté alors. Elle doit simplement se contenter de supporter les humeurs de son mari, ou réciproquement d'ailleurs pour la femme, pour faire son salut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, hein? La question est sérieuse. Et donc cette question a été débattue dans l'ambiance intellectuelle française de l'époque, qui était très très riche, et avec une certaine énergie, je peux vous dire. Il y a un livre qui vient d'être fait là-dessus, qui s'appelle « Qui est mystique ?» par le père Bernard Mainviel, de Notre-Dame de Vie. Le livre vient de sortir, tout juste. Et il parle donc de ce débat. Qui a dirimé le débat? Comment avons-nous eu une solution? Parce que la solution, on l'a eue. Et cette solution à la question que je viens de vous énoncer et que vous trouvez posée en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle, donc ce débat violent, a eu une solution. Où se trouve la solution? Dans le Concile de Vatican II. Parce que le Concile de Vatican II, dans Lumen Gentium, a justement, voyez, réglé la question en disant que tous les chrétiens sont appelés à la sainteté. Dans le Concile de Vatican II, vous avez cet appel universel à la sainteté, qui est un appel qui n'a jamais été dit dans l'Église avec la même force. Ouais. Il avait été déjà dit avant, même dans des documents solennels, mais jamais avec la même puissance. Et donc, vous voyez, le Concile de Vatican II a réglé, en quelque sorte, a dirimé le problème en disant, mais tous les chrétiens sont appelés à la sainteté. Ce qui veut dire, par conséquent, comme conséquence, que la vie mystique existe tout à fait, mais qu'elle est finalisée, elle a des raisons d'être, et elle n'est pas nécessairement, au moins au niveau des grands phénomènes mystiques, les plus spectaculaires, dans la vie nécessaire de chaque chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous sommes tous appelés à la sainteté, si pauvres que nous soyons, on aura peut-être des phénomènes mystiques, on n'en aura peut-être pas, mais ça n'a pas d'importance. La question n'est pas là. Vous voyez, la question c'est le don du cœur au Seigneur. D'accord, c'est notre don absolu au Seigneur sous la mouvance totale des dons du Saint-Esprit. Que le Seigneur s'occupe de nous, nous prenne en main et nous fasse avancer. Alors on devient saint. Et donc, vous voyez, entre le débat de la fin du 19e et le début du 20e siècle, Et le Concile de Vatican II, qui donc se termine, voyez, en 1965, entre les deux, on a la solution à la question, qui est une question fondamentale. Qui a donné la solution? Mais c'est Thérèse. C'est Thérèse. C'est pour ça que Thérèse est docteur de l'Église. Voyez, c'est elle qui a donné la solution à la question. Alors comment l'a-t-elle fait? Ça, tout le monde le sait, mais c'est quand même bien que je vous le rappelle. Voyez. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que, parce que ça c'est quand même important de le dire, que dans la perspective dans laquelle on disait « seuls certains chrétiens sont appelés à la sainteté », on avait malheureusement détourné aussi le culte du cœur de Jésus vers un culte, alors pas seulement de réparation, parce qu'en soi c'est bon, mais je dirais à la limite de réparation victimale. C'est-à-dire que le culte du cœur de Jésus était lié à une souffrance exceptionnelle que nous devions vivre pour réparer les péchés. Et cette souffrance elle-même était liée à un ensemble de dévotions dont on avait des listes entières. Et au fond, le culte du cœur de Jésus était devenu une dévotion au milieu des autres dévotions, alors que c'est le centre même de la religion chrétienne. Et on avait oublié, en quelque sorte, l'appel à l'amour, voyez, qui est le cœur même du message de parrainemonial. De même, en ce qui concerne la Vierge Marie, ce goût pour les choses un peu extraordinaires faisait qu'en fait, on voyait la Vierge Marie, non pas à travers sa proximité avec nous et son rôle dans l'économie du salut, mais à travers ce qu'elle avait d'extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le grand dictionnaire de théologie catholique, qui est une espèce en faisant ce que je dis là, je ne veux pas être plus critique qu'il ne faut. Le 19e siècle, c'est une très grande époque, dans laquelle il y a eu énormément de choses merveilleuses, mais elle avait besoin d'un redressement. D'accord ? Ne sortez pas d'ici en disant « c'est affreux, le 19e siècle est une époque horrible, le père Pérouse nous l'a prouvé, il n'a rien prouvé de tout ça ». D'accord, le 19e est une très très grande époque, mais chaque époque a besoin de redressement, on a besoin d'être remis dans l'axe, et c'est vrai pour notre époque aussi. Donc, le culte de la Vierge Marie était devenu un peu un culte un peu extraordinaire, c'est-à-dire que par exemple, vous prenez le grand dictionnaire de théologie catholique, qui fait presque 2 mètres de long sur mes étagères. Le grand dictionnaire, vous regardez l'article Marie, Vierge Marie, qui est énorme. Eh bien, cet article démarre à partir des privilèges mariaux. C'est-à-dire qu'on prend Marie, non pas à partir de son rôle dans l'économie du salut, mais on le prend à partir de tous les éléments inhabituels, mais justifiés, de la Vierge Marie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est comme destitué. Vous comprenez ça? La Vierge Marie n'est plus seulement notre mère, notre accompagnatrice et notre sœur. Elle est surtout celle qui est différente de nous. Alors c'est sûr qu'elle est différente, mais en même temps elle est toute proche. Vous voyez, l'aspect différence l'emportait dans la présentation, souvent, pas toujours, mais souvent, sur l'aspect proximité. Ça va? Arrive Thérèse. Alors, arrive Thérèse, et Thérèse de l'Enfant Jésus se trouve devant tout cet ensemble de problèmes qu'elle n'a pas, Thérèse n'est pas une intellectuelle, mais c'est une intuitive, et c'est une femme d'un énorme bon sens, et d'autre part, pour dire la vérité, elle a très bien démarré dans la vie. À cause de ses parents. Moi, je me suis toujours demandé comment une fille de 24 ans avait pu arriver à une capacité doctrinale de cette qualité-là. Mais en réalité, la réponse est donnée par le fait qu'elle a démarré mieux que nous. Enfin, mieux que nous, je ne veux pas dire du mal de vos parents ni des miens. Enfin, les siens en sont. C'est-à-dire qu'elle a eu un milieu en quelque sorte familial, aussi avec des sœurs qui étaient des filles exceptionnelles, même Léonie. Elle a démarré dans un milieu familial qui était un milieu quand même extrêmement juste, extrêmement sain, à tous les sens du mot sain, extrêmement porteur. Ce qui fait qu'elle avait une espèce de bon sens associé à un culot quand même assez monstrueux, et que dont le Seigneur s'est servi. Alors, vous vous rappelez donc un peu l'itinéraire de Thérèse qui explique tout. Elle a vraiment le désir de devenir sainte, de devenir sainte très vite. Elle entre au Carmel à 14 ans. Elle veut devenir tout de suite sainte et une grande sainte. Et puis, paf, ça marche pas. Elle se base sur les grands saints du Carmel. Thérèse d'Avila, Jeanne de la Croix, ça marche pas. Alors, au bout de quelques années, au lieu de se décourager, de faire une dépression, vous trouvez ça si vous connaissez un peu la vie consacrée, en particulier la vie des monastères de clôture, ça arrive tous les jours. Vous avez des filles qui rentrent à 20 ans ou à 25 ans dans un monastère de clôture, elles ont, avec toute la générosité de leur cœur, elles ont le désir de devenir saintes, et au bout de 7 ou 8 ans, elles se fracassent. Alors, se fracasser n'est pas mauvais, c'est pas mauvais nécessairement. Ça veut dire qu'il faut rebondir autrement. C'est ça que ça veut dire. On a une image idéale de nous-mêmes et de notre personne et de notre avenir, et bien c'est raté, il faut faire autre chose. Alors, en fait, c'est ce qui s'est passé pour Thérèse. Thérèse a très bien compris qu'elle ne passerait pas par-dessus l'obstacle. Il était trop haut. Alors elle s'est dit, je vais passer dessous. Et donc c'est là où elle a compris cette petite voix, qui est la voix d'abandon, enfantine, entre les mains de notre papa, le bon Dieu. Elle a compris, mais ça, c'est parce qu'elle avait un père exemplaire. Elle a compris que Dieu était d'abord père. Elle a compris que l'être de Dieu est lié à la paternité. Que l'être du père, c'est la tendresse pour ses enfants. Et que par conséquent, il n'abandonne aucun de ses enfants, et surtout pas les plus petits. Et comme il faut s'occuper davantage des plus petits que des plus grands, ça veut dire qu'en réalité, la petitesse n'est pas un obstacle, c'est la meilleure voie. Plus je suis petit, plus Dieu s'occupe de moi. Ouais. Plus je suis humble, mieux Dieu s'occupe de moi. Et donc à ce moment-là, je vais trouver une voie nouvelle pour avancer. Et donc ce sont ces fameux passages sur l'escalier et l'ascenseur. Elle a trouvé l'ascenseur. Et l'ascenseur ne consiste pas à s'élever, elle ne peut pas. C'est l'inverse, il faut s'abaisser. Et donc si je suis rien, incapable, dépourvu de phénomènes mystiques et dépourvu de courage ascétique, eh bien il me reste mon rien. Si je suis rien, il ne me reste rien. Au moins, c'est ça qui reste. Eh bien, Dieu va s'occuper de moi. Et donc, vous voyez, c'est une espèce de renversement copernicien. C'est une espèce de passage génial. Vous voyez. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que elle a énoncé ça avec un culot incroyable, en disant, j'ai trouvé une nouvelle voie pour la sainteté, que je vais enseigner, qu'on suivra, et c'est la bonne. C'est quand même incroyable, cette fille de 20 ans qui vous explique ça. Non. Et alors avec un cran, un calme, une autorité absolument incroyable. Incroyable. Et c'est, en plus, c'était ça. Vous voyez. Et alors du coup, ça change aussi sa relation aux saints. C'est-à-dire que les saints pour elle ne deviennent pas des personnages extraordinaires. Hein. Ça devient des amis, tout proches. Hein. Et elle disait elle-même, je voudrais bien qu'on me parle des défauts des saints. Eh oui, puis les saints ils ont des défauts, non? Regardez saint Paul, il avait ses défauts, saint Pierre avait ses défauts. Alors, si on connaît les défauts des saints, ils se rapprochent de nous. Et donc, du coup, voyez, et de même, la Vierge Marie, elle a le culot incroyable de dire « Je ne vois pas la Vierge Marie comme tout le monde. » Il faut quand même le dire. Hein. Elle sort des cadres, vous hein, voyez. Parce que la Vierge Marie devient une maman, une sœur affectueuse, une mère de famille qui s'occupe de ses enfants en difficulté, et en particulier des tout-petits qui sont là et qui n'ont rien. Si vous ne nourrissez pas au biberon un bébé, il meurt. Eh bien, la Vierge Marie nous nourrit au biberon. Elle a comme renversé les choses. Elle a comme renversé les choses. Et alors ensuite, après, ce qui est extraordinaire, c'est cette découverte qu'en réalité, de plus en plus, tout ça est tout simplement lié au phénomène le plus fondamental de l'existence humaine, qui n'est pas une observance morale, ça la comporte, bien sûr, qui n'est pas un effort ascétique, ça le comporte, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est tout simplement d'aimer. Tout simplement d'aimer. Le centre de l'univers, c'est l'amour. C'est simplement ça. Le centre du cœur de Dieu, c'est l'amour. Le message du cœur de Jésus à Paray-le-Monial, c'est l'amour. La vie religieuse, c'est l'amour. La vie sacerdotale, c'est l'amour. La vie d'un laïc ou d'une laïque, quoi qu'il fasse, c'est l'amour. Ce qui nous unit les uns aux autres, c'est l'amour entre nous et l'amour que nous recevons de Dieu et que nous lui rendons. Et donc ça veut dire que par conséquent, le cœur du monde, c'est l'amour. D'où la consécration de Thérèse à l'amour miséricordieux. Elle ne pouvait pas s'offrir à la justice de Dieu comme un certain nombre de personnes l'avaient fait à l'époque pour réparer les péchés du monde. Telle somme de péchés, telle somme de souffrances. Vous voyez, il y a tant de péchés dans le monde. Eh bien, je vais souffrir la même somme pour réparer. D'accord? On tenait même des comptabilités, vous savez. Et elle a pas voulu faire ça. Elle s'est dit, moi, je vais pas compter. Je vais simplement m'offrir à l'amour. Je vais me donner à l'amour. Et je vais vivre d'amour, et je ferai vivre d'amour, même et surtout après ma mort. C'est exactement ce qu'elle a fait. Vous voyez? Donc au fond, c'est simple, mais ce que je voudrais vous faire sentir, c'est que c'est parfaitement révolutionnaire. Et donc, elle a comme inauguré une nouvelle manière de vivre en chrétien. Elle a produit un effet libératoire absolument incroyable. Incroyable. Alors, c'est pas toujours facile à comprendre. À Bordeaux, nous avons eu un archevêque que j'ai énormément aimé, qui était le cardinal Haït. Cardinal Haït est un grand théologien, mais quand les évêques de France ont fait une supplique pour demander au pape que Thérèse de l'Enfant Jésus soit proclamée docteur de l'Église, il n'a pas voulu voter, il s'est abstenu. Il n'a pas voté contre, mais il s'est abstenu, le seul à s'abstenir. Parce qu'en conscience, il ne pouvait pas suivre. Et puis en fait, après, il est tombé malade. Et il a évolué d'une façon incroyable quand cet homme qui était supérieurement intelligent et cultivé s'est trouvé dans la pauvreté. Et à ce moment-là, il a compris à quel point le message de Thérèse était réel. Vous voyez, à quel point c'était par la pauvreté qu'on accédait au cœur de Dieu. Vous voyez, à quel point c'était l'amour désarmé, l'amour gratuit qui permettait d'aller vers Dieu. Et il est devenu parfaitement thérésien. À tel point d'ailleurs qu'il a fait un mea culpa public dans la revue du diocèse de Bordeaux. Ouais, c'est très bouleversant, ouais, c'est très très touchant. C'est mea culpa d'un cardinal, en plus membre de la commission théologique internationale, enfin très grande pointure au point de vue intellectuel. Ouais. Voilà, donc il faut comprendre ça, mais voyez, la petite Thérèse en réalité a un message doctrinal absolument extraordinaire. Un message doctrinal. Alors, ce message doctrinal, il a fallu qu'il passe quand même dans la pratique. Il a fallu qu'on l'accepte. Il a fallu que les théologiens, les intellectuels, les formateurs de séminaires acceptent les maîtres des novices, etc., les maîtresses des novices acceptent de changer leurs paramètres. Vous voyez, il a fallu qu'on ait un nouveau paradigme, en quelque sorte une nouvelle base, pour penser la vie chrétienne. Et alors, comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait parce que Thérèse l'a confirmé, sa doctrine, par ce qu'on a appelé un ouragan de gloire. Donc, je voudrais, dans la troisième partie, maintenant, parler un peu de cette influence que Thérèse a eue post-mortem. Alors en fait, il y a un livre à écrire qui, comme tel, n'a jamais été écrit. On en a écrit des parties, mais on n'a pas écrit le bouquin. Si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous a un peu de temps, il peut essayer de faire ça. C'est la vie posthume de Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est intéressant. Vous savez qu'il y a des saints dont la vie posthume est très intéressante. Vous prenez un exemple que j'aime beaucoup, c'est Saint Jérôme. Saint Jérôme, vous savez, aux origines chrétiennes, traducteur de la Bible en latin, vous voyez ce qu'on appelle la Vulgate, grand exégète, et Saint Jérôme, curieusement, a toute une vie posthume. Il est apparu plein de fois dans l'histoire de l'Église. C'est amusant. Une de ses spécialités, c'est d'apparaître. Pourquoi? Je ne sais pas trop, je poserai la question au bon Dieu quand j'irai de l'autre côté. Mais enfin, en tout cas, de fait, il l'a fait. Donc, vous voyez, il y a des scènes dont on devrait écrire une vie posthume. D'accord? Marthe Robin, on peut écrire une vie posthume de Marthe Robin, on peut commencer à l'écrire, c'est intéressant. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, alors là, on en aurait des volumes. La vie posthume de Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Alors, la première chose d'abord, c'est que son autobiographie, alors je vais vous dire des choses que peut-être vous savez, mais je pense certains aspects, au moins vous les ignorez. C'est important de les avoir en mémoire. La première des choses qu'elle a fait d'abord, c'est la publication de sa propre autobiographie, l'histoire d'une âme. Bon, donc, à l'époque, alors, ça n'a rien en soi de surprenant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand une religieuse mourait, on faisait une notice nécrologique sur elle qu'on envoyait aux autres, dans les Carmels, aux autres Carmels. Et ces notices nécrologiques étaient quelquefois assez longues. On en a comme ça des volumes entiers pour certaines communautés religieuses. Vous savez, à l'époque, les religieuses avaient le temps d'écrire, elles aimaient ça. Donc du coup, on écrivait l'histoire de la sœur Marie de l'Incarnation, Dolorès de Jésus et de Saint-Joseph. Voilà. Et assez facilement, on faisait 10 pages, 20 pages, 30 pages. On imprimait ça, ça coûtait pas très cher à l'époque, et Vlan, on envoyait ça à tous les Carmels ou à toutes les visitations de France. Donc, c'était normal d'écrire la vie d'une religieuse décédée. On le faisait pas pour toutes, mais on le faisait pour beaucoup. On en a, nos bibliothèques en sont pleines. Donc, on écrit la vie de Thérèse, et donc, on fait l'histoire d'une âme. Alors, on propose ça à des éditeurs de Paris, aucun n'en veut. Les éditeurs catholiques de Paris, aucun n'en veut. Aucun. Les grandes maisons d'édition catholiques n'en veulent pas. Bon, alors on le propose à des éditeurs de province. Il y a des éditeurs catholiques en province. Tours, par exemple, il y a une grosse maison d'édition. Ils n'en veulent pas, aucun n'en veut. Aucun n'en veut, personne. Alors on décide de le publier à compte d'auteur. C'est-à-dire en payant l'édition. Et comme naturellement les carmélites n'ont pas d'argent, c'est l'oncle de Thérèse, qui s'était beaucoup occupé de lui, vous savez, qui paye l'édition. Et on fait une édition, une première édition à 2000 exemplaires, qui paraît donc exactement l'anniversaire de la mort de Thérèse, donc en 1898, pour l'anniversaire. Et en fait, on est obligé aussitôt de faire une deuxième édition, immédiatement. En 1999, il faut faire une deuxième édition. En 1900, on est déjà à 6000 exemplaires vendus. Il faut savoir qu'un livre en France à l'heure actuelle, actuellement, se vend en moyenne entre 1500 et 2000 exemplaires. C'est la moyenne des ventes. D'accord? Bon. 6000 exemplaires. Alors, les traductions voient le jour immédiatement. En 1901, la polonaise. En 1902, l'italienne et la hollandaise. En 1904, l'allemande, l'espagnol, la portugaise, la russe et la japonaise. Si bien que le mouvement s'accélère et qu'en 1915, on est arrivé à 211 000 exemplaires. 211 000 exemplaires. Pour l'histoire d'une âme, et on avait fait une vie abrégée tirée de ça, qui était arrivée, elle, à 710 000 exemplaires. On est au million. Si bien que finalement, vous voyez, on a eu un gigantesque élan à partir de ce livre, plus des annexes, comme par exemple les portraits de Thérèse. En 1925, on avait déjà distribué 30 millions de portraits de Thérèse de l'Enfant Jésus. 30 millions de portraits. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les chiffres des autres ouvrages profanes. Alors, nous allons prendre Jules Verne. Ça vous intéresse, Jules Verne ? Jules Verne, c'est un des grands auteurs du XIXe siècle. C'est le plus grand succès de Jules Verne, c'est 5 semaines en ballon. Vous avez tous lu, bien sûr. Il a été publié à 2000 exemplaires, et il s'en est vendu du vivant de l'auteur 76 000. C'est un énorme succès. C'est le plus gros succès de Jules Verne. Ça l'a rendu riche. Vous voyez, 76 000 exemplaires de 5 semaines en ballon. Aucun rapport avec les chiffres de Thérèse. Non ? Aucun rapport. Le roman du XIXe siècle qui a eu le plus de succès, c'est La Bête humaine de Zola. On avait fait une publicité gigantesque pour La Bête humaine, et il est arrivé à 99 000 ventes. D'accord, 99 000 ventes. Ça n'a aucun rapport avec les millions d'exemplaires de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça n'a pas de rapport. Oui. Donc ça a été une espèce d'ouragan. Et donc cet ouragan, c'est intéressant pour nous, parce qu'il s'est doublé en plus d'un certain nombre de correspondances absolument extraordinaires. En 1911, le Carmel de Lisieux recevait 50 lettres par jour. 50 lettres, il faut déjà les lire, les dépouiller, y répondre. Hein. 50 lettres demandant des faveurs ou remerciant de faveurs. Quelquefois, il y avait des témoignages assez longs, 1911. En 1914, on était passé à 500 lettres par jour. Et entre 1903 et 1925, entre 800 et 1000 par jour. Il avait fallu créer une annexe spéciale du bureau de poste. C'était spécialement dédié à la correspondance du Carmel. C'est gigantesque. Hein, personne ne peut dire que... On ne voit ça nulle part. Absolument nulle part. Donc c'était un ouragan de gloire. Voyez, un ouragan de gloire. Hein. Pendant la guerre de 14, on a voulu résumer dans un livre les faveurs de Thérèse, les protections données aux soldats. On a fait un très gros volume. Hein. Mais en réalité... On a résumé, on avait les matériaux pour en faire 6 de même dimension. On s'est arrêté à 1. Donc, on a eu un ouragan de gloire, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce sont les miracles, ce sont les faveurs, c'est tout ce qu'a fait Thérèse, vous voyez, qui a été confirmé. Alors, ce qui est très intéressant aussi, alors là, il aurait fallu que je prenne le temps de vous parler de ça, mais je ne l'ai pas, ce sont les gens qu'elle a influencés. Par exemple, Daniel Brottier. Daniel Brottier, le fondateur de cette chapelle, touché par Thérèse, protégé par Thérèse pendant la guerre de 14, dans des conditions miraculeuses. Brottier, vous savez, a été un aumônier militaire de légende. Il a risqué sa vie en première ligne pendant 4 ans, tous les jours. Ouais. C'est un des héros de la guerre. Il a été couvert de décorations. Daniel Brottier, protégé par Thérèse, en missionnaire, il avait construit la cathédrale de Dakar, on le nomme un beau jour responsable des orphelins apprentis d'Auteuil de l'abbé Roussel. Il arrive ici. Et il voit, dans ce lieu, un hangar en briques servant de chapelle. Un hangar en briques, minable. Et le premier jour de son arrivée, il dit, on va construire une grande chapelle ici. Et même une basilique. On va construire une grande chapelle et on va la dédier à Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, j'ai pas un sou, ça n'intéresse personne. Mais je sais qu'on va le faire. Alors, je vais en parler au cardinal archevêque de Paris. Je dois le voir après-demain, donc j'ai 48 heures, et je donne à Thérèse 48 heures pour me donner 10 000 francs or pour construire sa chapelle. 48 heures à Thérèse. Les 48 heures se passent, pas de signe de Thérèse. Alors il prend un taxi pour aller voir l'archevêque de Paris, là devant la porte. Il prend un taxi, le premier taxi qui passe, et au moment où il monte dans le taxi, arrive une dame qui lui dit « Attendez, monsieur l'abbé, ne montez pas dans le taxi, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous ai demandé de prier pour mon fils qui était gravement malade. Mon fils est guéri. Je veux remercier Dieu et je vous donne pour en faire ce que vous voulez le don qui est dans cette enveloppe. » Il monte dans le taxi, il ouvre l'enveloppe, 10 000 francs or. Il a construit la chapelle. Quand il a été raconté ça à l'archevêque de Paris, l'archevêque a dit « Bon, ben d'accord, on va la construire, la chapelle. Alors, même moi, archevêque de Paris, je ne peux rien faire contre ça. » Alors là-dessus, on lance là les souscriptions, etc., etc. Et l'archevêque dit « Mais attendez, la chapelle, là, votre petite Thérèse, d'accord, très bien, mais enfin, je veux dire, c'est une chapelle pour des enfants, pour des jeunes, pour des orphelins. Il faut qu'on trouve un jeune pour s'occuper d'eux. par exemple celui de Gonzague, Stanislas Kotska. Vous allez quand même pas leur donner comme patronne une femme et une carmélite à ces garçons qui sont tous des petits gars des rues et qui sont tous des durs. Il leur faut un mec. Il n'a pas dit ça comme ça, l'archevêque. À l'époque, on ne parlait pas comme ça, on était bien élevé. Et alors, le père Brottier répond, mais Monseigneur, Éminence, ils ont besoin d'une maman, ces enfants. Ils ont besoin d'une maman. Elle va être leur petite mère, Thérèse. On ne peut pas la dédier à quelqu'un d'autre qu'à Thérèse. Bon, dit le cardinal archevêque de Paris, je me rends. Et voilà la chapelle dans laquelle on se trouve. Voyez. Voilà la chapelle dans laquelle on se trouve. Donc c'est un exemple extraordinaire. Alors l'affection du père Brottier avec Thérèse est extraordinaire, le père Brottier. Le cardinal Suard, archevêque de Paris. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, c'est un très grand personnage. C'est la génération après le père Brottier. Il est arrivé à Paris, vous savez, venant de Lisieux, et puis de Reims, en fait, en 1940, en fait. Et il est resté jusqu'en 1949 archevêque de Paris. Le cardinal Suard a rencontré Thérèse quand il a été nommé, un peu avant, mais surtout quand il a été nommé évêque de Bayeux-Lisieux. Et quand il est arrivé donc dans son diocèse, il a aussitôt été à Lisieux, il a été voir le Carmel, il a été prié sur sa tombe, et il a compris qu'il était en quelque sorte l'évêque de Thérèse. Oui, l'évêque de Thérèse. Que c'est Thérèse qui l'avait conduit à l'épiscopat, alors qu'apparemment, il n'était pas du tout fait pour l'épiscopat, le cardinal Suard. C'était pas du tout un homme de gouvernement, il était d'une distraction folle. Par exemple, quand il était dans un train, il savait jamais s'il allait sortir à droite ou à gauche. Alors, il n'arrivait pas à trouver le quai. Donc, vous voyez, il était complètement... Quelquefois, il n'arrivait pas à ouvrir ni à fermer la porte de sa chambre. Il fallait que son valet de chambre vienne l'ouvrir la porte. C'était un type supérieur, très intelligent, un grand théologien. Enfin, il n'avait pas la tête d'un homme de gouvernement au départ. Et donc, en fait, et d'ailleurs, quand on l'a nommé, on lui a dit, mais vous ne savez pas gouverner, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Il a répondu, ça c'est vrai. Par contre, je sais très bien ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il a donc été évêque de Lisieux, un bon évêque de Lisieux, puisque c'est lui qui a construit la basilique. C'est lui qui a construit la basilique de Lisieux, qui a lancé la construction de la basilique, puis il est arrivé à Paris. Et en fait, quand il est arrivé à Paris, il s'est dit, mais cette grande ville de Paris, en plus en pleine guerre, largement déchristianisée, mais il faut l'évangéliser. Et donc Thérèse, en fait, c'est l'étoile de l'évangélisation. Thérèse, je suis l'évêque de Thérèse, mais pourquoi? Mais c'est pour évangéliser. Et donc, en réalité, il faut relancer l'évangélisation dans cette ville. Et donc, vous savez qu'il a écrit ces fameuses lettres pastorales, le prêtre dans la cité, voyez, etc., sur l'église, etc., qui étaient comme des encycliques. Et c'est lui qui a lancé la mission de Paris, la mission de France, les prêtres ouvriers, etc. Et le cardinal Suard, c'est une des sources directes du Concile de Vatican II. La paroisse du Petit Colombe, qui a été pendant longtemps dans la boucle de la Seine, la paroisse pilote de l'église catholique, pendant longtemps, jusque dans les années 60. Vous voyez, entre 45 et 60, pour simplifier. Eh bien, le cardinal Suard, vous voyez, c'est une des sources directes du Concile de Vatican II. Et c'est Thérèse. Troisième personnage dont je voudrais vous parler, c'est Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, carme, qui a fondé Notre-Dame de Vie, qui a écrit ce livre extraordinaire « Je veux voir Dieu ». Et il a fait le passage, en quelque sorte, de la spiritualité carmélitaine habituelle, Thérèse de l'Enfant Jésus, Jean de la Croix, voyez, à une spiritualité carmélitaine colorée par Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est vraiment extraordinaire, au point de vue intellectuel, parce qu'il a eu le courage de garder toute la tradition carmélitaine, mais de la colorer, en quelque sorte, de telle façon que, du coup, elle devient accessible à tout le monde, et pas seulement à des spécialistes, qui seraient les carmélites ou les carmes. Ouais. Dernier personnage dont je voudrais parler, mais on pourrait parler d'autres, Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, disciple et ami du cardinal Suard, dont nous parlions à l'instant, vous voyez, et dont toute la vie a été commandée par cette constatation que pour devenir saint, il n'en était pas capable. Il ne pouvait pas. Donc il était arrivé à la conclusion qu'il était un pauvre type, et il a expliqué à toute la communauté de l'Emmanuel que nous étions une communauté de pauvres types. Il disait toujours, tant qu'on n'a pas compris qu'on est des pauvres types, il y a quelque chose d'important qui nous manque. Mais c'est parfaitement thérésien. Parce que c'est pas un problème. Si on est des pauvres types, Dieu s'occupe de nous. Non, il faut bien que Dieu va pas s'occuper des géants. Les géants, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ouais. Il ne peut s'occuper que des microbes que nous sommes. Et bien, heureusement, il s'en occupe. Ouais. Et donc, Pierre Goursat était profondément touché par la personne de Thérèse. Et vous voyez, ça s'est diffusé, pas seulement dans les manuels, mais d'une façon assez générale, dans toutes les communautés nouvelles. Je termine en vous racontant une petite anecdote qui m'amuse beaucoup. C'est une anecdote sur l'histoire posthume de Thérèse. Elle est complètement vraie. Et elle a été racontée par le ministre à qui elle est arrivée. Un prêtre catholique dans un hôpital où le ministre était malade, le prêtre aussi. Donc ils se sont parlé, ils lui ont raconté l'histoire. L'histoire se passe en Égypte, au Caire, dans l'entre-deux-guerres. À ce moment-là, vous savez, l'Égypte est un pays indépendant, mais sous tutelle britannique, et dans les ministères égyptiens, il y a une grosse influence française aussi, il y a pas mal d'étrangers. À un moment donné, il y a une réaction nationaliste, et au ministère des Affaires étrangères, on décide de renvoyer tout le personnel non égyptien. Dans ce ministère, il y a une secrétaire française qui n'a comme revenu que son travail et qui s'occupe de son vieux papa malade et qu'elle fait vivre. Si elle n'a plus de travail, elle ne sait plus ce qu'elle va devenir. Alors, le jour où elle apprend qu'elle est renvoyée, elle va à l'église qui a été construite en l'honneur de Thérèse de l'Enfant Jésus, à l'époque dans la banlieue du Caire, où beaucoup de chrétiens et beaucoup de musulmans viennent prier. Et elle va se mettre devant Thérèse et elle pleure et elle la supplie de l'aider. Elle revient au ministère. En arrivant au ministère, un huissier l'aborde et lui dit « Mademoiselle, monsieur le ministre veut vous voir à l'instant. » Très étonnée, elle ne connaît pas le ministre, bien sûr, elle n'est qu'une simple secrétaire. Elle se laisse amener dans le cabinet du ministre. Et le ministre lui dit ceci « Mademoiselle, c'est d'accord, nous vous gardons. On est venu me dire vos qualités, votre excellent travail et aussi que vous vous occupez de votre vieux père, vous restez. Mais franchement, mademoiselle, il n'était pas nécessaire de m'envoyer une princesse pour me parler de vous. Vous auriez pu venir me voir. » Alors la secrétaire, complètement perdue, lui dit « Monsieur le ministre, une princesse, mais je ne connais pas de princesse, je n'ai jamais fréquenté de princesse. Mais mademoiselle, enfin, tout à l'heure, une princesse est venue me voir. Elle m'a parlé de vous avec beaucoup d'autorité et de conviction. Elle était quand même habillée d'une façon curieuse. Elle portait un voile sur la tête, elle avait un manteau blanc et un habit brun. C'était très inhabituel, mais c'était une princesse. » Alors, la secrétaire, un peu étonnée, sort de son portefeuille une photo de Thérèse de l'Enfant Jésus et la montre au ministre. Le ministre la regarde et lui dit « Mais vous voyez bien, mademoiselle, que vous connaissez cette princesse, puisque vous avez sa photo sur vous. » Alors elle lui dit « Mais monsieur le ministre, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est morte en 1897-98. » Mais le ministre lui dit « Mais c'est impossible, un mort ne peut pas réapparaître, mais c'est une sainte. Mais mademoiselle, que me dites-vous là? D'ailleurs, je l'ai raccompagnée, j'appelle des huissiers. » Et le ministre fait venir les deux huissiers dans son cabinet et il leur dit « Messieurs, vous avez bien vu tout à l'heure la personne que j'ai raccompagnée. » Les huissiers disent rien. « Mais enfin, parlez !» Et les huissiers lui disent « Monsieur le ministre, excusez-nous, en effet, tout à l'heure, nous avons vu raccompagner un personnage invisible avec lequel vous faisiez de grandes salutations, et on a été un peu inquiet pour vous. » Voilà, chers amis.
Père Bernard, je ne sais pas si vous serez le bienvenu du côté de... Comment c'est la commission de quoi? La congrégation pour la cause des saints, parce que vous risquez d'en avoir 300 de plus bientôt. Hein. Mais merci pour cette belle invitation que vous nous adressez à chacun d'entre nous. Je pense que personne ne l'aura oublié. Merci parce que vous nous avez rappelé une chose tout à fait simple. C'est qu'au cœur de l'Évangile, c'est... Dieu est amour, tout simplement, et Thérèse, elle a été là pour nous rappeler le cœur de l'Évangile. Et puis quand même, laissez-moi vous toucher pour être bien sûr que c'est vous. Si vous regardiez ce vitrail, vous sauriez que ce vitrail, c'est un ex-voto. On était en 1925, on vient de terminer le gros œuvre de la chapelle. On a dit la première messe à Noël 1925, et le père Brottier n'attend plus qu'une chose maintenant, c'est ce qui lui permettra de meubler sa chapelle. En janvier 1926, il y a une dame qui s'en retourne à Tours avec sa fille, et en arrivant sur Tours, accident de voiture. La fille sort de la voiture, la maman est écrasée là-dessous, la fille réussit à sortir le chauffeur, la maman continue d'appeler vers Thérèse, en lui disant « Si tu me sors de là, si tu me sors de là. » La fille a le temps d'aller chercher de l'aide, et finalement on sort de la voiture, la maman vivante, et en remerciement, voici ce vitrail. Ça fait partie de, comment vous appelez ça ?
L'histoire posthume de Thérèse.
Voilà, l'histoire posthume de Thérèse.